nzamba
nzambira samirana
Nous sommes le vendredi 25 juin 2021. Merci d'être avec nous sur la radio Nzamba Agathe Kakaawe. C'est le moment du journal en français, dont voici d'abord les principales articulations. L'organisation des élections libres et transparentes, c'est l'un des grands défis surmontés par le pouvoir d'Evariste Ndayishimiye, selon les propos avancés par son porte-parole, Evelyne Butoyi. C'était lors d'une conférence publique des porte-parole des institutions publiques organisée à Makamba, au sud du pays. Ces élections ont été truquées et fraudées par le CNDD-FDD, estime la coalition politique Sefor Arusha. Deux personnes ont été arrêtées hier par le responsable du service national des renseignements à Mabanda, au sud du pays. Leur famille s'inquiète. Et puis, c'est un nouveau rebondissement dans l'affaire de l'activiste des droits de l'homme Germain Rukuki. Le directeur général des affaires pénitentiaires vient de décider son maintien en prison, alors que la cour d'appel de Nahangwa venait juste de réduire sensiblement sa peine, lui permettant ainsi d'avoir le droit d'être libéré. Le juriste Dieudonné Bachaïchizé dit que la décision de ce directeur général viole la loi. Voilà pour le sommaire de ce journal. À la présentation, vous êtes avec Valérie Moucho. Madame, Monsieur, soyez tous les bienvenus.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Parmi les grands défis que le président Ndayishimiye a pu surmonter figure l'organisation des élections libres et transparentes. C'est l'avis de son porte-parole, Evelyne Butoyi. C'était lors d'une conférence publique des porte-paroles des institutions publiques ce vendredi. Frédéric Bamvourignoum-Villa, qui préside la coalition politique d'opposition Sefor Arusha, réfute cette affirmation. Il dit plutôt que les élections ont été émaillées de beaucoup d'irrégularités et que le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, ne les a pas du tout gagnées. Les détails dans ce reportage signé Josephine Jones-Munzimana.
Dans cette conférence publique, le porte-parole du président affirme que le président Ndayishimiye n'a pas connu beaucoup de difficultés parce que son prédécesseur, Feu Nkurunziza, lui avait déjà tracé le chemin. Selon Evelyne Butoyi, porte-parole du président, c'était la première fois que des élections soient organisées sans contestation.
Certains défis ont été faciles pour le président Evariste Ndayishimiye. Il est entré en fonction alors que le pays venait d'organiser toutes ses propres élections. Des élections apaisées qui ont vu la participation de tous les Burundais, contrairement à celles du passé qui étaient contestées et suivies de querelles et insécurité. Ce que je peux dire encore, il est arrivé au pouvoir au moment où la paix et la sécurité étaient de mise sur tout le territoire national. Les Burundais l'attendaient pour le soutenir autour du travail et cela a été possible grâce au chemin qu'avait tracé Feu grand-père.
Frédéric Kiwamvuginyumvira, un des politiciens burundais en exil, balaye du revers de la main ses propos tenus par la porte-parole du président. Les élections ont été trichées par le parti au pouvoir.
Au niveau des élections, le pouvoir le sait, le CNL a gagné les élections. Et d'ailleurs, les observateurs de l'Église catholique l'avaient bien souligné que les élections avaient été marquées par de très grandes irrégularités, à tellement qu'il fallait les arrêter, les annuler et en organiser d'autres. Il y a une étude qui vient d'être menée par des indépendants, où dans cette étude, ils ont collecté des PV, ils n'ont peut-être pas eu la chance d'accéder à tous les PV, mais ils nous ont dit si nous avions accès à tous les PV, on démontrait que justement c'est le parti CNL qui a gagné les élections et pas le CNDD-FDD.
Sur la question de la participation massive aux élections de 2020, Frédéric Bamvourignoum-Villa reconnaît que les Burundais ont répondu massivement dans le souci de sanctionner le parti au pouvoir CNDD-FDD par les urnes.
Dans cette conférence publique, Evelyne Butoyi a aussi déclaré que près de 3 milliards de francs burundais sont rentrés dans les caisses de l'État suite à la politique de lutte contre la fraude et la corruption du régime d'Evariste Ndayishimiye. Selon l'Observatoire de lutte contre la corruption et des malversations économiques, l'UCOM, ces chiffres sont fantaisistes, vu les fonds détournés chaque année par les communes du Burundi. Le point avec Beni Axel Akana.
Le porte-parole du président de la République, Evelyne Mutoi, dans sa réponse à la campagne du gouvernement de lutte contre la corruption et la fraude, il explique que le président Evariste Ndayishimiye a fait rentrer au trésor public une somme de 2,980 millions de francs burundais. Dans cette conférence publique des porte-parole des institutions, Evelyne Mutoi exhorte tout Burundais de contribuer dans cette campagne.
Dans la bonne gouvernance, il a fait revenir au trésor public une somme de 2,980 millions, soit à peu près 3 milliards de francs burundais. C'est une activité de tout le monde et c'est pourquoi il exhorte l'appui de tout un chacun, car c'est un trésor appartenant à nous, les Burundais. Évitons donc de se contenter sur la destitution de certains responsables. Contentons-nous plutôt sur ceux qui sont au travail pour faire un suivi régulier de nos activités.
L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, ne le voit pas de cet œil. Il estime plutôt que cette somme n'est pas du tout suffisante. Gabriel Ufsili, président de l'OLUCOM, explique que cette somme déjà rentrée au trésor est différente des statistiques données par le gouvernement démontrant les fonds détournés chaque année par les communes.
Au niveau des communications qui ont été données par le ministre de l'Intérieur et son porte-parole, ils nous ont informé que les communes enregistrent un manque à gagner en termes de centaines de millions par an par an. Donc, pour nous, nous ne comprenons pas comment, si les communes enregistrent des pertes considérables que vous avez entendues, mais nous, quand on a multiplié, nous avons trouvé plus de 40 milliards de nos francs. Donc, ces milliards vraiment ne peuvent pas être trouvés nulle part. Certes, il y a des discours. Il faut que vraiment il y ait cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Nous pensons que c'est à ce niveau-là qu'on pourra dire que la lutte contre la corruption est une réalité.
Pour le président de l'OLUCOM, le gouvernement du Burundi devrait plutôt mettre en place des institutions efficaces de lutte contre la corruption pour bien mener cette campagne.
Le défenseur des droits de l'homme, Germain Rukuki, devrait rester en prison selon une décision du directeur général des affaires pénitentiaires. La peine d'emprisonnement de Germain Rukuki avait pourtant été réduite par la cour d'appel de Nahangwa ce lundi à une peine d'une année et au paiement d'une amende de 50 000 francs burundais. Le praticien du droit, maître Dieudonné Bachelet-Chizé, dénonce une décision arbitraire de ce directeur général. Pour lui, cela prouve à suffisance que la justice burundaise est instrumentalisée. On l'écoute.
Lorsqu'on est arrêté et qu'on est conduit dans une maison d'arrêt, c'est une décision de justice qu'on exécute. Et lorsqu'on est signifié d'une décision qui réduit la peine au point que la période déjà passée en prison est plus longue que la peine écopée, il n'y a plus aucune raison qui pourrait justifier qu'il soit maintenu actuellement en prison. À supposer même que le parquet général projette de formuler un pourvoi en cassation, du moment que l'arrêt a été rendu par la cour d'appel, une haute juridiction en matière d'analyse du fond, le pourvoi en cassation étant un recours extraordinaire, la personne qui a été relâchée par la cour d'appel devrait être mise dans la position qui a été décidée par la cour. Ce qui est en train de se passer maintenant dans ce dossier de Germain Rukuki vient confirmer les rapports qui ont été produits par les organisations nationales et internationales qui montrent bien que la justice est instrumentalisée, qui montre que même lorsque la justice prend une décision, il y a d'autres autorités qui agissent dans l'ombre et qui arrivent à imposer des décisions prises dans des conditions obscures. Ça fait un bon moment que le président tient de bons discours, des discours qui promettent donc l'indépendance de la magistrature. Il est temps qu'il le prouve parce que l'article 214 de la Constitution le place en position de garant de l'indépendance de la magistrature. Ce défenseur des droits de l'homme qui a été maintenu arbitrairement en prison pendant plus de 5 ans devrait retrouver sa famille. Il est inimaginable qu'il passe passe une nuit de plus en prison, alors qu'il a déjà passé plus de 4 ans de plus que la peine qui lui a été signifiée aujourd'hui. Nous espérons donc que prochainement, ces gens qui se montrent être au-dessus de la justice pourront être replacés dans leurs places respectives et que la décision de la justice sera respectée.
Vous saurez que Germain Rukuki a été emprisonné pendant plus de 4 ans. Au départ, il devait purger une peine d'emprisonnement de 32 ans avant que la cour d'appel de Nahangwa ne réduise cette peine à une année. La page sécuritaire à présent, deux personnes ont été arrêtées en commune Mabanda dans la province Makamba par le responsable communal du service national des renseignements ce jeudi. Leurs familles sont inquiètes car elles n'ont plus de leurs nouvelles depuis hier. Les détails avec Delicia Kamikazi.
Il s'agit d'Antigone Ndaïganza et de Francine Niyonsaba, tous deux arrêtés ce jeudi, respectivement, sur la colline Budaketwa et au centre Mabanda. Selon une source à Mabanda, leur arrestation a été effectuée par Merowe Nzwenimana, représentant du CNR en province Makamba, et Serge Nibayubahe, chef de zone Gitara de la commune Mabanda. Des proches d'Antigone Ndaïganza disent qu'il serait poursuivi suite à son frère, qui était enseignant dans un établissement scolaire de la localité. Celui-ci a fui le pays suite à la persécution qu'il subissait de la part des jeunes Mbonerakure du CNDD-FDD et du service de renseignement. Le lieu de son refuge n'est pas connu selon la même source. Pour ce qui concerne Francine Niyonsaba, elle est l'épouse d'un militaire issu des ex-forces armées burundaises. Le motif de son arrestation n'est pas encore connu. Mais ce qui inquiète encore plus les familles des deux est que le lieu où ils ont été conduits n'est pas connu. Toutefois, une source à Mabanda dit que les deux ont été embarqués au bord du véhicule du responsable du CNR à Makamba. La rédaction de la radio Inzamb a essayé de joindre le commissaire de la police à Makamba sans succès. Les détentions dans des lieux inconnus se multiplient et inquiètent de plus en plus la population de cette commune de Mabanda. Au début du mois de mai dernier, un certain Charles Amenimana avait été arrêté et conduit vers une destination inconnue, même si certaines sources indiquent qu'il serait détenu au cochon du CNR à Bujumbura.
La situation se détériore dans le site des déplacés de Gasenyi, dans la zone commune Rango, dans la province de Kayanza. Les fonctionnaires et les jeunes s'inquiètent. Ils disent que le curé de la paroisse Gasenyi et son vicaire sont derrière ce qu'ils appellent un plan visant à chasser tous les déplacés de ce site, à commencer par les jeunes et les fonctionnaires. Le vicaire Abarugira Manassé dément ces accusations. Il indique que la paroisse est seulement contre un groupe de gens parmi ces déplacés qui ont attaqué les fidèles et qui voulaient planter des haies anti-érosives. C'est un reportage signé Diane Nkurunziza.
Depuis le déclenchement du conflit le week-end dernier, la situation reste confuse. Des actions visant à chasser les habitants du site de Gasenyi continuent, mais le vicaire de la paroisse Gasenyi, propriétaire de la parcelle du site Manassé Abarugira, tranquillise les déplacés.
Les habitants du site sont des enfants de l'Église catholique. Nous ne pouvons pas les chasser de cette manière décrite. Personne n'a cette intention de les chasser dans l'immédiat. Même ceux qui voudront rentrer partiront en sécurité.
Néanmoins, les habitants, eux, affirment bel et bien le plan de les chasser de ce site, entre autres des actions de pression, des arrestations de certains jeunes du site et les menaces des Imbonerakure aux habitants.
La paroisse veut que les fonctionnaires et les jeunes quittent les premiers pour rester avec les personnes âgées qui vont quitter eux aussi progressivement. Nous ne savons pas ce qui se cache derrière cette mesure. Nous sommes vraiment inquiets parce qu'à l'extérieur, nous sommes sous menace des Imbonerakure qui vivent aux alentours du site. L'exemple, ce sont des arrestations qui ont été opérées à l'intérieur du site alors que le coup de fusil a été entendu en dehors du site.
Le vicaire de la paroisse Gasenyi, Manassé Habarugira, explique que la paroisse s'acharne à une bande de bandits parmi les habitants du site. Il affirme qu'il vient de libérer un qui est acquitté, mais qu'un autre est transféré à Kayanza.
Au moment où on se parle, je viens de libérer l'un des détenus. Je viens de le déposer au site. Ils étaient à deux au cachot. L'un vient d'être transféré à Kayanza, tandis qu'un autre vient de rentrer parce qu'il n'a commis aucune faute.
Il a aussi précisé qu'il n'y a pas un deadline de dimanche. Selon le vicaire Manassé, le gouverneur a exigé que si les habitants du site ne dénoncent pas ceux qui ont tiré avec une arme le week-end passé, que l'administration prendra d'autres mesures.
Inzamba.
Et dans le domaine de la santé, les réfugiés burundais vivant en Ouganda, dans le camp de Nakivale, s'inquiètent suite à la pandémie de la COVID-19 qui fait des ravages dans ce pays ces derniers jours. Pendant cette période où le pays est confiné, certains réfugiés contactés par la radio Inzamba disent que la vie devient de plus en plus difficile.
C'est une situation intenable du fait que nous devrions aller chercher comment compenser le peu d'argent que le programme alimentaire mondial nous donne. Comme d'autres Ougandais, nous suivons les mesures mises en place par le gouvernement pour la prévention du COVID-19.
Nous menons une vie misérable. Les enfants vont totaliser bientôt 2 ans sans se rendre à l'école et les églises sont fermées. Le HCR ne nous donne que 19 000 francs chilens par personne. C'est une petite somme qui ne peut même pas nourrir une seule personne pendant 2 semaines. Les réfugiés vivaient grâce aux petits métiers, mais pour le moment, c'est impossible à cause du confinement. Je dirais que c'est une vie qui n'est pas du tout facile. Les réfugiés se déplacent à pied, mais dans des endroits qui ne sont pas fréquentés par beaucoup de personnes. Les boutiques sont ouvertes jusqu'à 17 heures et le port du masque est strictement obligatoire. Mais le problème est qu'il y a beaucoup de policiers dans des endroits où on peut remarquer beaucoup de personnes, par exemple au robinet public.
Au sein de la communauté est-africaine, sur plus de 270 000 cas déjà enregistrés, plus de 4 000 personnes ont trouvé la mort suite à la COVID-19. Le Kenya enregistre plus de 3 000 morts. Et au Burundi, les autorités sanitaires affirment que 8 personnes seulement ont été tuées par la pandémie. Selon le bureau de l'OMS en Afrique, la troisième vague prend de la vitesse et frappe plus fort. La pandémie menace beaucoup 14 pays africains. Les détails avec Josine Kadze.
Au Burundi, le ministère de la Santé publique fait savoir que jusqu'à présent, sur 5 334 cas de la pandémie COVID-19 enregistrés, seules 8 personnes ont décédé. Au Rwanda, notre pays voisin, 402 personnes sont mortes sur un total de plus de 30 000 cas recensés. En Tanzanie, 509 cas de COVID-19 ont été enregistrés, dont 21 décès selon les autorités de ce pays. Le Kenya vient au sommet avec plus de 3 000 morts sur 181 000 cas de COVID-19 enregistrés. Les chiffres montent exponentiellement en Ouganda, où plus de 40 000 personnes sont atteintes du COVID-19, dont 334 ont rendu l'âme. Les cas quotidiens ont augmenté au cours des 3 dernières semaines, passant de 100 à plus de 1700 selon les autorités sanitaires de ce pays. Le Soudan du Sud, quant à lui, a enregistré jusqu'aux 115 morts sur plus de 10 000 cas de contamination. Au total, 4 418 personnes ont trouvé la mort suite à la COVID-19 au sein des pays de la communauté est-africaine sur plus de 272 532 cas déjà enregistrés. Selon le bureau de l'OMS en Afrique, la troisième vague prend de la vitesse et frappe plus fort. Ce variant, identifié pour la première fois en Inde, a été signalé dans 14 pays africains. La recrudescence du COVID-19 en Afrique survient alors que la pénurie de vaccins persiste sur le continent selon l'OMS.
Voilà, c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir et à la prochaine.